Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Chaque jour, vous le savez, nous prenons le temps de décrypter, analyser, creuser un sujet. Aujourd'hui, le retour de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe.
J'espère que ce sommet marquera le début d'une nouvelle phase dans l'action arabe commune en faveur de la solidarité, la paix dans la région, le développement et la prospérité au lieu de la guerre et des destructions.
Un extrait diffusé par nos confrères de France 24, c'était en fin de semaine dernière à Jeddah, en Arabie Saoudite. 12 ans après avoir été écarté, le retour de Bachar el-Assad. Un sommet comme si de rien n'était, ou presque. Au moins 500 000 morts depuis le début de la sanglante répression de son peuple. Répression qui s'est transformée en guerre. Des millions de réfugiés. Et donc ce dictateur qui revient sur la scène arabe, une réhabilitation forcément qui pose question. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Vous êtes grand reporter au service étranger de RTL. En réintégrant Bachar el-Assad, la Ligue arabe tourne-t-elle une page, Brice ?
En fait, la Ligue arabe, elle tourne la page des printemps arabes. En 2010-2011, ça a été le début d'un grand soulèvement généralisé dans le monde arabe qui avait débuté, on se souvient, en Tunisie avec le départ du dictateur Ben Ali. Et puis, il y avait eu un effet domino, beaucoup de révoltes populaires avaient été s'étaient formées suite justement au départ de Ben Ali. Alors, tous les pays ou presque du monde arabe et de cette Ligue arabe dont on parle ont été concernés. On se souvient bien sûr de la Libye avec le départ de Muammar Kadhafi, puis il y a eu le Yémen, il y a eu l'Égypte avec Hosni Moubarak aussi qui avait quitté l'Égypte. Et puis c'est le début de la guerre en Syrie. La révolte populaire en Syrie entraîne ce conflit armé qui, vous le disiez, a fait 500 000 morts, a duré plus de 10 ans. Et puis on se souvient de l'Algérie aussi avec une mobilisation hebdomadaire tous les vendredis. Le Irak qui a notamment coûté à Abdelaziz Bouteflika sa candidature à une quatrième présidentielle. Et c'est vrai que vu des pays du Golfe ou des pays arabes, tout ce mouvement des printemps, c'était une source de déstabilisation parce que même les Émirats du Golfe qu'on pensait très éloigné de ces considérations populaires, eh bien, il y a eu une aspiration à une forme de liberté au Bahreïn. Ça a été le cas au Yémen, ça a aussi entraîné une guerre. Et donc, en faisant revenir Bachar el-Assad à la table, la Ligue arabe, elle décide de tourner un peu cette page et de se dire, voilà, la stabilité est un peu revenue. Alors, Hosni Moubarak, par exemple, en Égypte, a laissé la place au maréchal Sissi, dont on peut douter des intentions et des volontés démocratiques. Mais voilà, la stabilité est à peu près revenue, même si on sait que tous les États qui ont connu les printemps arabes sont souvent dans des situations difficiles. Et l'idée, c'est de dire, avec le retour de Bachar el-Assad, cette fois-ci, on va passer à autre chose et on va pouvoir avancer, disons, peut-être pas comme si de rien n'était, mais en tout cas le faire revenir dans le giron international des pays arabes.
Et est-ce que tous les États de la Ligue arabe ont la même position vis-à-vis de Bachar el-Assad, vis-à-vis de la Syrie ?
Non. Et mais au sein de la Ligue arabe, d'ailleurs, il y a des États qu'on n'a pas beaucoup entendus, mais qui quand même se sont exprimés en défaveur de ce retour. Je pense au Qatar, notamment, et au Maroc, qui, pour des raisons peut-être un peu techniques ou un peu personnelles, c'est-à-dire que les relations d'État, c'est à la fois la communauté internationale mais aussi c'est des relations d'État à État. Et c'est vrai que le Qatar et le Maroc, par exemple, ne souhaitaient pas forcément le retour de Bachar el-Assad parce qu'ils avaient le sentiment que ça incarnait une position peut-être un peu indulgente à l'endroit du comportement du dictateur ces dernières années. Les États qui ont fait pression, qui ont vraiment mené ce retour et qui se sont engagés pour ce retour de la Syrie au sein de la communauté des pays arabes, c'est l'Arabie Saoudite. D'abord du prince héritier Mohamed Ben Salman, et c'est les Émirats Arabes Unis du prince Ben Zayed. Et leur volonté à tous les deux, je pense qu'on peut en parler tout de suite, enfin en tout cas des raisons pour lesquelles ils ont souhaité ça, c'était d'essayer de contrer l'influence iranienne, qui est l'ennemi, vous savez, de la région, les Iraniens chiites face aux pays du Golfe sunnite. Et l'idée de l'Arabie Saoudite est...
Reprendre la main.
Voilà, exactement. De dire, les Iraniens ont aidé Bachar el-Assad avec les Russes à garder le pouvoir militairement. Les Iraniens ont envoyé des milices militaires chiites pour l'aider à garder le pouvoir et pour l'aider à reconquérir des zones qu'il avait perdues. Et donc aujourd'hui, les Iraniens, économiquement, politiquement, ils en récoltent un peu les fruits. Donc l'idée de l'Arabie Saoudite, c'est de dire, bon, l'Iran a une influence très importante en Syrie, ce serait quand même bien qu'on sorte la Syrie de son isolement, la remettre à la table des négociations et de dire peut-être qu'on peut nous aussi rediscuter et faire en sorte, comme l'Arabie Saoudite veut être le géant diplomatique du Golfe et des pays arabes, l'idée de Mohamed Ben Salman, c'est de dire voilà, l'Arabie Saoudite veut rassembler tout le monde, quitte parfois en effet à devoir sinon fermer les yeux, au moins voilà, s'affranchir d'une certaine situation quand même dans le pays.
Et en quoi justement la Ligue arabe tire-t-elle bénéfice de cette réhabilitation de Bachar el-Assad ?
Pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, c'est l'idée de dire nous sommes des grandes puissances et nous allons réussir à rassembler tout le monde. Diplomatiquement, c'est très important. On le voit d'ailleurs lors de ce sommet de la Ligue arabe, le président Zelensky qui était en route par le Japon s'est aussi arrêté à ce sommet à Jeddah. C'est pas anodin, ça veut dire de manière un peu schématique, que si le président ukrainien s'arrête à Jeddah, c'est qu'il est important de s'arrêter en Arabie Saoudite. Et donc, pour les Saoudiens, c'est une manière de dire, parmi les géants mondiaux, nous pouvons incarner une forme de cohésion, nous pouvons être aussi un acteur de paix, et nous pouvons et nous devons être un État incontournable.
Et un acteur de premier plan, effectivement.
Exactement, un acteur de premier plan. Il y a l'influence iranienne, on le disait, ça c'est clairement le but, est de dire on ne va pas laisser Téhéran, donc la capitale de l'Iran, avoir une influence démesurée en Syrie. Et puis nous aussi, peut-être le moment où il faudra reconstruire le pays, peut-être le moment où il faudra retisser des liens économiques avec un État syrien qui économiquement est dans une situation catastrophique. Voilà, pour l'Arabie saoudite, ça peut être aussi, et pas que, hein, pour les autres pays arabes, ça peut être aussi un vecteur économique. Et puis c'est une façon de dire... Nous sommes une alternative aussi au monde occidental. On a vu ces dernières années se développer des communautés internationales hors Occident. Pendant des décennies, c'est plutôt les pays occidentaux qui menaient les grandes opérations de médiation internationales. Là, l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, veulent dire bah, peut-être que le monde arabe, reprenant la Syrie, qui est un des pays fondateurs hein, de la Ligue arabe en 1945, ils étaient sept, la Syrie en faisait partie, de dire nous remettons la Syrie dans le giron des pays arabes. Et c'est une manière de dire on va réussir avec cette cohérence peut-être à apporter la paix au Yémen, peut-être au Soudan. Voilà, ce sont des acteurs qui veulent jouer un rôle au-delà du monde arabe pur. Et pourquoi pas en Ukraine aussi, d'où la visite de Zelensky.
Alors, il y a également une autre donnée hein, pour comprendre ce qui se joue au niveau régional. La Syrie est devenue la plaque tournante d'une drogue de synthèse, le captagon. Alors, dites-nous en quoi le fait que ce soit une plaque tournante a des influences diplomatiques.
Oui, c'est une des raisons aussi très importantes, au-delà de ce qu'on disait, c'est ce captagon. En fait, plus qu'une plaque tournante, la Syrie est un pays producteur. C'est-à-dire que la Syrie, notamment depuis le début de la guerre, la production de captagon. Le captagon, c'est quoi ?
C'est quoi ?
Ouais, le captagon, c'est une drogue, c'est des pilules. D'accord. C'est à l'origine un médicament qui était commercialisé en Europe dans les années 80, qui était produit notamment en Allemagne. C'était un médicament qui était prescrit contre l'état dépressif, contre la narcolepsie et parfois contre l'hyperactivité. Donc en gros, c'est un médicament. C'est une drogue qui est une drogue de synthèse, qui était fabriquée par des laboratoires avant d'être interdit, parce qu'en fait, c'est très addictif. Et donc, la consommation devenait la même qu'une consommation de drogue. Donc, ça a été interdit en Europe, produit dans les pays de l'Est, qui ont intégré l'Union européenne. Donc, tous les réseaux ont été démantelés, et ça s'est déplacé jusqu'au Proche et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, avec la situation très instable de la Syrie, sa situation économique catastrophique, ce marché de la drogue représente pour l'État syrien une source de revenus. On estime, c'est difficile à établir, mais ça représente à peu près 10 milliards d'euros de revenus par an, le captagon. Donc c'est produit en Syrie, et c'est commercialisé évidemment pas qu'en Syrie, parce qu'il n'y a pas le public. Donc c'est commercialisé dans les autres pays arabes, c'est-à-dire les pays limitrophes, depuis les ports du Liban notamment, etc. Et donc les pays alentours, dont l'Arabie saoudite, sont impactés par ça. Pourquoi ? Parce que cette drogue, elle est pas très chère et elle est consommée par la jeunesse saoudienne, mais pas que. C'est le cas aussi en Jordanie, c'est le cas dans plein de pays arabes, et qui se disent, bon... Comment faire pour arrêter cette propagation d'une drogue qui détruit notre jeunesse et qui ne les met pas forcément dans la bonne voie ? Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec des États qui disent « Si on ne fait pas revenir la Syrie dans le giron des pays arabes, on ne va pas pouvoir négocier avec eux la fin de ce trafic-là. » Et l'idée, c'est de dire « Vous allez revenir, nous allons en contrepartie vous aider financièrement et vous, de votre côté, il faudra à un moment arrêter » de produire et de commercialiser cette drogue qui détruit un petit peu tout. Et on sait, certaines enquêtes journalistiques ont montré que cette drogue était notamment gérée par une branche de l'armée syrienne qui est gérée par un des frères et par des cousins de Bachar al-Assad. Donc les liens entre le commerce de cette drogue-là, le captagon, et le régime syrien qui s'en sert comme homme de financement est plutôt démontré. Et donc, c'est un élément très important aussi dans ce retour de Bachar al-Assad à la table de la Ligue arabe.
Mais alors, accueillir à nouveau un frère sanguinaire, c'est aussi piétiner à la face du monde. Hein. Les droits de l'homme, on le dit clairement, le message est envoyé.
Oui, et en même temps, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte aujourd'hui, qui sont quand même des États...
Ce ne sont pas de grandes démocraties.
Non, pour lesquelles le... Après, ce sont des modèles différents des nôtres, ce ne sont pas des démocraties, il n'y a pas d'élection, et s'il y en a, je pense à l'Égypte, on voit que le maréchal Sissi l'emporte toujours avec plus de 95 voire même 98% des voix, et il n'y a aucune opposition, évidemment. Ce sont des États où le respect des droits humains ne fait clairement pas partie des priorités. Les droits individuels existent très peu. Donc si en interne, dans ces États-là, dans ces Émirats-là, les libertés individuelles existent peu, il y a fort à parier que ça ne va pas beaucoup les émouvoir de se dire « la situation en Syrie est un obstacle ». Même s'ils ont quand même exclu Bachar al-Assad au regard d'une répression sous la pression de la communauté internationale. Mais quand même, pendant plus de 10 ans, il a été exclu. On peut le mettre à leur crédit. Mais sur les droits humains purs, le faire revenir face aux difficultés dont on parlait et à une forme de ce qu'on appelle la réapolitique, c'est-à-dire à un moment où le monde a un peu changé en 13 ans. Et s'il faut faire revenir Bachar al-Assad au sein de la Ligue arabe pour nous améliorer notre situation, peut-être qu'on ne ferme pas les yeux sur les droits humains, mais en tout cas, bon, on ne va pas totalement s'embarrasser avec ça. L'Arabie Saoudite est le pays qui exécute le plus de personnes dans le monde. L'Égypte, je vous le disais, les élections ne sont pas du tout libres. Les Émirats, le Qatar, on connaît la situation des femmes en Arabie Saoudite. Enfin bon, ce pas des États qui font du respect des droits humains une valeur essentielle, en tout cas pas la première dans la liste de leurs préoccupations quotidiennes. Ce message, et d'ailleurs peut-être qu'on peut écouter Clémence Bechtard, qui est avocate au sein de la FIDH, la Fédération Internationale des Droits Humains, elle l'explique assez bien, on va l'entendre. Le message, il est d'abord adressé, ce message violent, il est d'abord adressé au peuple syrien.
C'est un message absolument terrible qui est adressé à la population syrienne. La Syrie, depuis 2011, c'est plus de 500 000 morts, 7 millions de réfugiés, le recours systématique à la torture, le recours à l'arme chimique. Et après tout cela, eh bien, le message qui est lancé à travers cette normalisation, cette réhabilitation par la Ligue arabe, c'est de dire à la population syrienne, eh bien, nous vous abandonnons, d'autant plus qu'aucune contrepartie n'a été demandée à Bachar el-Assad. Toutes ces familles syriennes qui attendent aujourd'hui de savoir si leurs proches sont morts sous la torture, s'ils sont encore détenus. Et le signal qui est donc lancé, c'est de dire à la population syrienne, oubliez ce qui s'est passé et continuons comme si de rien n'était.
Oublier ce qui s'est passé, ne faire comme si de rien n'était.
Alors ce qui est impossible, évidemment, pour le peuple syrien, dont d'ailleurs Clémence Bechtard, cette avocate, défend tout un tas de procédures qui sont menées par les citoyens syriens pour tenter, de manière très difficile, de faire condamner ou de faire poursuivre. Bachar al-Assad, ça semble difficile, mais en tout cas, certains dignitaires du régime, qui pour certains d'ailleurs ont fait des passages en Europe, etc. Donc, mais forcément, c'est très difficile d'atteindre la tête du régime et les personnes qui sont autour du dictateur.
On entend la logique de realpolitik, mais après la scène arabe, finalement, est-ce que l'on risque de voir Bachar el-Assad revenir sur la scène internationale et pas seulement sur la scène arabe ?
Aujourd'hui, non. C'est impossible parce que le retour de Bachar al-Assad au sein de la Ligue arabe a quand même provoqué des réactions au sein du monde occidental. L'Union européenne, les États-Unis ont clairement dit, alors pas forcément par la voie la plus haute, hein, pas les présidents ou les, mais quand même, il y a eu pas mal de prises de position diplomatiques disant que c'était quand même pas possible avec les 500 000 morts, c'est plus de 6 millions de réfugiés à l'extérieur du pays, beaucoup en Turquie notamment, c'est plus de 7 millions de déplacés internes, enfin, c'est colossal, et de faire, entre guillemets, comme le disait l'avocate, comme si de rien n'était, pour les États occidentaux, c'est pas possible. Mais on le disait tout à l'heure, comme se développent des diplomaties un peu parallèles, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde se polarise avec les occidentaux d'un côté, la Russie, la Chine et ses alliés de l'autre, la Ligue arabe avec l'Arabie saoudite qui veut aussi incarner un pouvoir, on peut imaginer que certains États se disent ben, si les Occidentaux ne sont pas contents, certes, mais on va quand même faire avec. Mais un retour de Bachar al-Assad au sein, par exemple, d'un sommet international avec une invitation d'un État occidental, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il est poursuivi par certains États. Et d'ailleurs, ces poursuites dont on parlait à l'instant et l'avenir de Bachar al-Assad et l'avenir de l'espoir d'une forme de population syrienne, c'est lié justement à cette mobilisation occidentale. Et d'ailleurs, l'avocate Clémence Bechtard l'explique assez bien.
L'essentiel, je dirais aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, les États-Unis tiennent bon, maintiennent leurs sanctions et ne cèdent pas aux sirènes de cette normalisation. Au nom, non pas de valeurs, mais au nom d'une humanité commune que nous devons aux Syriens que nous partageons avec les Syriennes et les Syriens et de dire nous ne vous abandonnerons pas et nous continuerons d'être à vos côtés dans vos demandes qui sont légitimes et qui sont des demandes de justice et des demandes bien évidemment de ne pas avoir à vivre à l'avenir avec ce régime torsionnaire.
Qui gagnera à la fin ? Qui gagnera à long terme, quoi, l'humanité commune, comme le dit l'avocate, ou la réelle politique ?
Et ça, clairement, ça dépend à la fois donc des pays arabes, mais ça dépendra aussi de la cohésion occidentale et du soutien. On pense bien sûr aux Américains, dont on sait que beaucoup de Syriens en veulent à Barack Obama, qui à l'époque avait dit à Bachar al-Assad, s'il y a utilisation d'armes chimiques, ce sera la fameuse ligne rouge, et si vous franchissez cette ligne-là, alors les États-Unis s'impliqueront. On sait, on a toutes les preuves qui démontrent que Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre son peuple et contre des civils, il ne faut pas l'oublier, et que les États-Unis n'ont rien fait parce que ça ne présentait pas un intérêt suffisant. Ça, les Syriens ne l'ont pas oublié. Et les Américains, on le sait, c'est tous les 4 ans l'élection, la réélection du président. Il y a actuellement à Washington une administration avec Joe Biden qui défend les droits humains, en tout cas dans le discours, et qui met en œuvre, on l'a vu tant sur le plan interne que sur le plan international, tout un tas de mesures de défense des droits humains autour de la planète. La question c'est, si Joe Biden est battu par exemple par Donald Trump ou par un conservateur, quelle sera sa position vis-à-vis de la Syrie pour ou non un retour de Bachar al-Assad au sein de la communauté internationale. Alors, il n'y a pas que les États-Unis qui font la loi partout dans le monde, mais c'est quand même sur ce dossier-là, comme sur plein d'autres, un élément très important. C'est là peut-être que l'Union européenne devra aussi garder sa cohésion et montrer que tant que Bachar al-Assad sera à la tête de la Syrie, la Syrie ne rejoindra pas la communauté internationale, même si on sait que les pays occidentaux ont essayé à nombreuses reprises de le renverser. On dit qu'ils n'auraient plus de relations avec lui, et ça n'a jamais fonctionné.
Merci beaucoup Brice Dugénie pour cet éclairage passionnant. Je rappelle que vous êtes grand reporter au service étranger de RTL. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Focus. Vous pouvez à nouveau l'écouter, comme tous les autres d'ailleurs, sur le site et l'appli RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires.